Premièrement, touchant les méthodes d'enseignement, Guimonneau était au fond favorable, je disais, à l'exemple, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler un savoir régulateur. Le grand danger lorsqu'on est professeur, lorsqu'on commence à enseigner, c'est de laisser de côté cette tâche infinie de l'acquisition du savoir au profit de ce qu'on s'imagine être sa pensée propre, sa pensée individuelle, sa pensée personnelle. Et alors, au lieu d'expliquer les auteurs, moi je suis professeur de philosophie, donc ce sont des auteurs que j'explique, eh bien on se met à philosopher soi-même. Il n'est pas interdit de philosopher, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai toujours eu beaucoup de peine à concevoir ce qu'était un cours de philosophie qui consisterait à exposer la conception philosophique du professeur. J'ai toujours dit à mes étudiants, vous êtes bien en peine de savoir ce que je pense sur, l'expérience, l'histoire, le langage, l'animal, la raison, quelques sujets de philosophie que ce soit. Et je leur disais, vous seriez bien en peine de savoir quels sont les grands philosophes que j'affectionne le plus, sans parler de ceux que je n'ai jamais lus, ou que je n'ai pas envie de lire, ou je n'ai pas pu lire. Mais la philosophie, c'est selon moi, est d'essence dialectique. C'est-à-dire qu'elle a profondément en elle l'esprit que les Grecs appelaient l'esprit d'examen. On peut dire l'esprit critique, si vous voulez, mais l'esprit d'examen, je préfère, c'est-à-dire l'esprit sceptique. Mais le mot en français, aujourd'hui, signifie tout autre chose et des choses assez malsonnantes pour moi. Le véritable esprit d'examen ou esprit sceptique consiste à considérer que ce qu'il y a dans l'objection que je me fais à une thèse, ce qui est dans son contenu, possède une part de vérité. Autrement dit, que la vérité excède le savoir que j'ai et l'affirmation à laquelle je procède. Et chacun sait qu'un vrai cours de philosophie, selon moi, je ne prétends pas avoir la vérité, mais selon moi et selon mes maîtres, dont Monod, est un examen permanent, une pratique permanente de cet examen critique. Ça ne veut pas dire qu'on tourne en rond ou qu'on ne progresse pas, mais qu'on progresse par négation successive et enrichissante. Que ce n'est pas une série d'affirmations dogmatiques enfilées les unes aux autres qui fait un cours de philosophie, mais le fait devant les élèves de philosopher, certes, mais dans les textes, à partir des textes, en s'effaçant, c'est-à-dire en les expliquant, en les éclairant, en montrant ce qu'ils ont peut-être d'unilatéral, mais aussi d'infiniment riche, et conduisant à d'autres textes. Autrement dit, c'est un voyage, c'est un périple, une activité de pérégrination, où on ne sait jamais où l'on va, exactement comme à l'école des hautes études. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas la semaine suivante ce que je vais dire. Je le sais un peu, mais je ne sais pas sur quelle difficulté je vais tomber. Je ne sais pas brutalement ce que telle lecture, par exemple d'un père de l'Église, va me permettre de trouver chez un auteur musulman, ou réciproquement. C'est plutôt dans le sens précédent que ça va. C'est-à-dire comment tel auteur nestorien éclaire un texte du XVIe siècle iranien. Et ce mouvement permanent d'inquiétude de l'esprit, et non seulement ce qui maintient en forme, mais ce qui fait qu'il y a du coup une inspiration pour les élèves. Les élèves ne sont pas invités à réciter. Les élèves demandent sans cesse, mais alors qu'est-ce qu'on va dire au concours? Est-ce qu'on aura fini le programme? Non. Je vous le dis d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, mais enfin je le dis, l'agrégation ne se prépare pas. Grâce au ciel, vos professeurs, dans vos nouvelles classes d'agrégation, ne vont pas du tout vous y préparer. L'agrégation, on l'a par tout le mouvement qui précède, peut-être même pendant une année seulement, mais en lisant, en réfléchissant à ce qu'on lit dans le programme et hors du programme. Et ce n'est pas parce qu'on a fait tout le programme, comme on dit, qu'on est reçu. Enfin, il vaut mieux tout de même. Mais enfin, c'est pas comme ça. C'est pas l'ignorance non plus qui vous conduira à l'agrégation. Mais c'est le fait que pendant des années, on s'acharne un peu à l'aveugle à lire inutilement. C'était ça. On lisait trois lignes d'un auteur. Moi, je vais vous dire, donner une anecdote touchant ce point-là de méthode. Il savait que j'étais agrégé de philosophie. Vous savez, à 30 ans, on a beaucoup d'arrogance. Alors moi, il y a ici un témoin, savoir que je n'ai pas attendu 30 ans pour être extrêmement arrogant et trancher du vif. Alors je demande à Guy Monod de m'accepter comme étudiant, parce qu'on n'est pas pris comme ça aux études. Il me donne rendez-vous à 9h, donc je pars à 5h du matin, certes, avec les changements de train de l'époque. J'arrive à 9h au couvent des Dominicains, c'est là qu'il me reçoit, il me dit très bien, il prend un volume de la bibliothèque, volume d'Avicenne, grand philosophe du Xe siècle, comme ça, il l'ouvre, me dit « lisez et traduisez ». Comme ça, déboté, une page d'arabe. Là, l'esprit vous aide dans ces cas-là, parce que sinon, vous êtes déshonoré. Donc, je parviens, j'étais levé, je venais d'avaler un café, je ne savais pas quoi. Moi, je pensais que j'allais avoir un entretien et qu'il allait me dire « admirable jeune professeur, venez vous inscrire ». Rien du tout. Je lis ma page d'arabe, je ne sais pas comment, et je traduis ma page d'arabe. Ouais, il conclut que ça peut aller. Bon. Et alors que j'étais déjà élève hautes études, j'étais élève titulaire hautes études, j'ai été élève de plusieurs maîtres, considérait que ça, il s'en fichait. Vos preuves. Il faut donc des preuves minimales, c'est sérieux. Il n'y a pas de semblant dans le savoir et dans l'enseignement. On peut pas, ou on sait ou on ne sait pas. Mais d'autre part, à partir de là, je n'ai jamais vu, si je l'ai vu ailleurs, j'ai essayé de le pratiquer moi-même, un esprit aussi libéral. Je publiais, il encourageait à publier, et je ne faisais jamais ce qu'il attendait que je fasse. Je veux dire qu'il attendait, on se voyait régulièrement, dehors des cours, et il pensait que j'allais continuer à telle voie. Et je lui apportais régulièrement, tous les 2-3 ans, une publication qui n'avait aucun rapport avec ce dont on avait parlé. Eh bien, au lieu de me chasser ou de me prendre pour un rigolo, il considérait que c'était très bien. C'était parfait. Mon cheminement était le mien. Et pourvu que, évidemment, j'accepte les normes, et là j'en viens au point après l'exemple des normes, les normes qu'il avait su m'enseigner, ces normes de rigueur, ces normes philologiques, par exemple. Donc il me conseilla pour l'apprentissage de l'arabe, après avoir vu que j'en savais suffisamment pour lire une page d'Avicenne, qui était quand même le minimum. Après ça, il s'agissait de l'apprendre. Et comme mon premier maître, M. Corbin, qui m'avait dit « il vous faut 20 ans », il me dit « voilà la méthode, un an de grammaire arabe, de révision, vous avez quand même besoin à nouveau un petit peu en français, un an de grammaire arabe en arabe, et vous notez tous les mots nouveaux que vous retrouvez, toutes les racines. Quand vous connaîtrez par cœur 3600 racines arabes, puisqu'il y en a grosso modo un peu plus de 3600, ça ira. » Et il m'a dit, voilà, vous achetez un cahier, colonne de gauche, colonne de droite. Et c'est ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment les exercices. Et donc, la norme était bien une norme d'humilité, mais je dirais d'humilité créatrice. Quant à ce que je disais, c'est-à-dire le savoir régulateur, il interdit, et c'est même un peu dangereux d'ailleurs, je le reconnais, il interdit d'écrire n'importe quoi. Il interdit les idées générales. On est obligé d'avoir des idées générales, bien sûr. Mais les idées générales en philosophie sont un grand danger, parce qu'elles sont abstraites. Elles n'ont rien à voir avec l'universalité spirituelle dont je parlais. L'universalité spirituelle est faite de singularités, de richesses à chaque fois autonomes et vivantes. Et donc, il faut se défier des idées générales. Comment ? Eh bien, précisément par l'étude et la norme du savoir. C'est pour ça que je dis, pour de jeunes étudiants en philosophie ou en d'autres disciplines, en lettres, j'imagine, c'est un peu pareil. Quand on voit le chatoiement, la richesse profonde des domaines, et quand progressivement on y accède, là, on acquiert un juste orgueil. Il faut un peu d'orgueil, mais un orgueil justifié, un orgueil de, non pas de tout savoir ou d'avoir des idées sur tout, mais d'avoir moins d'idées générales et d'avoir d'idées plus précises. Je pense au mot « connaissance précise » chez Gaston Bachelard, qui était exactement au fait de cela. La connaissance précise étant la connaissance vivante et donc celle qui donne à penser. Et par conséquent, faire fructifier cela en soi, sans crainte, et alors les choses viennent par surcroît, dirais-je. Je ne sais pas si on réussit sa vie, je ne sais pas si on réussit même une carrière, ce n'est pas tellement ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être patient. C'est-à-dire les choses viennent, arrivent. Et la patience, c'est ce que je voyais chez cet homme, qui a pourtant publié 100 travaux. Sa bibliographie contient 100 travaux. Mais qui n'attendait rien. Non, qui avait bien raison de n'attendre rien. Il y a encore 4 jours, j'ai ouvert le journal asiatique, la plus ancienne et la plus grande publication d'histoire des religions, enfin, pour tout le domaine, à la fois religion, civilisation, archéologie, etc. Il a été fondé en 1820, ces alentours-là. Et je vois la nécrologie de Guy Monod, elle tenait en une ligne et 3 mots. Donc, voilà un homme qui a consenti à l'oubli. L'oubli chez les gens qui font les nécrologies d'une ligne et 3 mots. Il consentait à autre chose, dont qui est le dernier point sur lequel, alors là vraiment je conclurai. Le maître mot qui était le sien, c'était obéissance. Quand il a commencé les études d'arabe, il le dit là dans ce dernier texte de Sadri, un très grand maître, en particulier d'études arabes et persanes, un très très grand monsieur, lui pose cette question. C'était Henri Massé, qui est une légende des études iraniennes, et vous pouvez là aussi lire des ouvrages qui sont même en livre de poche de Henri Massé. « Comment êtes-vous venu à l'étude de l'islam ?» Et Monod répond « Par obéissance », ce qui était rigoureusement exact. C'était les dominicains qui lui avaient dit de se flanquer là-dedans. Mais cette obéissance, pourquoi est-ce qu'il la rappelle ? C'est qu'il l'a maintenue après sa retraite des hautes études. La dernière fonction qu'il occupait à 87 ans était celle de trésorier, enfin, il s'occupait des finances du couvent de l'Annonciation. Et il est mort à la tâche. Et j'allais le voir régulièrement, et je lui disais, mais mon père, pourquoi telle chose que vous nous avez donnée en cours, vous ne l'avez pas encore publiée? Il disait, il faut que je m'occupe de ceci, il faut que je m'occupe de cela. Et donc, il acceptait ces humbles tâches d'administration, humbles, vraiment, parce qu'absolument inconnues et invisibles, et il renonçait même à mettre noir sur blanc ce que nous avions dans nos cahiers. Et non sans difficulté, il ne cachait pas, c'est un homme, ce que ça pouvait valoir de souffrance. Mais moi, je retiens ça. Et sa souffrance, il dit « la vie est brève », bon, avec cette angoisse de ne pas transmettre tout, et en même temps, cette humilité, cet esprit d'obéissance qui est commun à plusieurs vocations, mais comme je ne peux parler que d'une seule, la vocation de professeur, qui est à mon avis essentielle à la vocation de professeur. Je vous remercie.
On a un petit peu en retard, mais on a quelques minutes peut-être s'il y a des questions, si quelqu'un veut poser une question à vous demander. Moi, j'en ai une, le temps que les autres se dérouillent. Est-ce que ce que tu dis des rapports de toi adulte avec ce professeur, non seulement d'enseignement supérieur, mais de l'enseignement supérieur, est-ce que ce genre de relation, un professeur peut l'avoir avec un élève de 6e, de 2e et de 4e préparatoire?
D'abord, je l'avais, cette relation, j'étais professeur de terminale. Alors, je ne sais pas pour éviter la question, mais je ne l'avais pas en tant qu'étant une sorte d'étudiant. Vous savez, aujourd'hui, les étudiants, je rencontre, à l'âge de 24 ans, ils voudraient déjà être docteurs, et bientôt, peut-être qu'on leur publie leur Festschrift à 30 ans. Donc, disons, j'ai un normalien comme ça, qui est d'ailleurs agrégé maintenant, je lui ai appliqué un peu les méthodes du père Monod. Ça lui a fait le plus grand bien. Il a débarqué de la rue d'Ulm. Je peux vous dire que là maintenant, ça y est, il est dompté, j'ai mis 5 ans, et J'ai dit, voilà. Donc déjà, c'est en tant que professeur que... moi, j'avais affaire à des élèves, j'étais à Auxerre, j'avais des élèves qui venaient de toute la campagne, etc. Je recevais, j'en usais avec des élèves de terminale, comme ce professeur avec moi. Donc déjà, je peux dire en tout cas que ça marche avec des lycéens. Et des lycéens qui n'avaient pas nécessairement accès aux livres. C'était pas si... Leur dire « lisez au moins un livre pour le baccalauréat », c'était pas si facile. Maintenant, avec des très jeunes enfants, je ne sais pas, moi j'ai été professeur en école normale d'instituteurs et j'accompagnais les institutrices de maternelle dans les maternelles, mais j'écoutais, je n'avais pas la prétention de leur dire comment on fait avec les jeunes enfants, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui traverse tout l'enseignement. C'est-à-dire que le professeur, enfin le maître, parce qu'on disait les maîtres aussi pour l'école et puis ensuite les professeurs de collège, oui, il montre l'exemple. C'est en traitant l'élève déjà... moi, je ne sais pas, je n'ai jamais tutoyé un élève. Jamais, bon. On peut pas, y compris quand j'en croisais, là, les petits, là, qui... Parce que à Jules Ferry, où j'enseignais 24 ans d'affilée, j'avais dans les pattes tous les... des fois, j'écartais avec mon parapluie pour pouvoir passer, mais je leur disais « vous ». Je leur dis, mais il n'y a pas si longtemps, on m'a connu en cette position. Et du coup, il y a un rapport qui s'instaure de respect mutuel, mais aussi de discipline. Mais il faut être intéressant, voilà ce que je veux dire. Je n'ai peut-être pas traduit ça très bien. Mono était intéressant, on pouvait faire 300 km pour aller l'écouter, alors que c'était extrêmement austère. Je pense qu'aujourd'hui, tous les faux problèmes de pédagogie, qui se sont souvent posés, surtout par ceux qui veulent imposer des pédagogies loufoques, ne voient pas tout simplement que les élèves s'ennuient. C'est tout. Moi, je peux vous dire, j'ai enseigné, maintenant, ça a 45 ans, je disais souvent, mais je les comprends, qu'ils sèchent, etc. D'ailleurs, d'abord, c'est très bien que les élèves soient de temps en temps remuants. Enfin, ça va bien quand même. C'est pas... Ou alors, on a oublié ce qu'on était. Mais ils s'embêtent comme... Ils s'embêtent à 100 sous de l'heure. Donc, des maîtres du supérieur supérieur, il faut savoir, à l'école des hautes études, il n'y a aucune obligation. Qu'une obligation. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'élèves, il y a des auditeurs. Et on est auditeur uniquement parce que le professeur vous a accepté, vous avez vu à quelles conditions parfois, mais sans condition de diplôme. Les portes sont ouvertes. On n'est pas étudiant en hautes études parce qu'on a des diplômes préalables. Et quand bien même on aurait 3 doctorats, on est traité de la même manière que ceux qui n'en ont aucun et qui vont commencer, et qui peuvent des fois commencer à 50 ans. Eh bien, ça donne une leçon, c'est que si le professeur n'est pas intéressant, il n'y a plus personne qui vient. Et ça, c'est, si on l'appliquait même dans les classes obligatoires, je le dis franchement, si le professeur apprenait à être intéressant, je suis persuadé que le niveau, comme on dit, remonterait.